Priorité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la réforme de l'assurance santé aux États-Unis avec Evelyne Thévenard, qui est donc maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Paris 4. Après avoir entendu le point de vue des conservateurs qui se sont mobilisés contre cette réforme, nous entendrons celui des démocrates. Le professeur Krivitsky nous dira pourquoi lui, il tient à notre sécu française. Et nous terminerons avec le docteur Miakala de la République démocratique du Congo qui nous dira aussi pourquoi lui s'intéresse à cette réforme américaine. Professeur Krivitsky, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été chef de service à l'hôpital Avicenne à Bobigny, en région parisienne. Vous continuez d'ailleurs à assurer des consultations. Et alors, vous allez nous expliquer un peu pourquoi vous tenez tant à notre sécu française, vous, en tant que médecin.
Ben, rappelons très brièvement que la sécurité sociale telle que nous la connaissons a été établie en 1945 dans le sillage de la Libération et du programme du Conseil national de la Résistance. Avant la guerre de 39-45, plusieurs lois avaient établi de façon partielle et fragile des systèmes disparates d'assistance sociale. Ce sont les ordonnances d'octobre 45 qui ont établi un réseau coordonné de caisses concernant les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès, couvrant à la fois l'ensemble des risques et la généralité des personnes.
Et bien sûr, ça s'est mis en place au fur et à mesure. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui ?
Oui, donc il y a eu effectivement au départ, ça n'était malgré les principes, ça n'était pas général. Par exemple, la sécurité sociale agricole n'a été rattachée que très tardivement. Bon, ce système permet aux assurés sociaux de bénéficier des soins nécessaires par leur état de santé en ne payant qu'une part réduite des consultations, examens, interventions, hospitalisations. Parfois, la prise en charge est totale, dite à 100% pour les maladies graves ou de longue durée, comme le cancer, diabète, accident vasculaire, chirurgie lourde, grossesse, accident du travail. Il n'est pas non plus nécessaire en cas d'urgence, vous en parliez, de présenter une carte bancaire avant d'être pris en charge. Des traitements.
C'est l'image qu'on a des États-Unis.
Voilà, oui, alors peut-être parfois schématique, mais enfin quand même qui correspond à une certaine réalité. Des traitements extraordinairement coûteux sont accessibles à tous, et ça c'est très important. On pourrait citer la grève du cœur, la dialyse rénale, le traitement de maladies très rares, qu'on dit orphelines, l'accès aux nouveaux médicaments issus de la recherche de pointe, etc. Alors depuis juillet 1999, une couverture médicale universelle, la CMU, a été instituée permettant aux personnes démunies d'être protégées. Alors, le côté des recettes, elles sont assurées par un prélèvement sur la masse salariale, sur la contribution sociale généralisée, la CSG, assise sur l'ensemble des revenus et sur des taxes diverses. Et depuis 1996, le Parlement vote chaque année la loi de financement de la sécurité sociale et fixe l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.
Alors, ce système paraît idéal sur le papier. Qu'en est-il concrètement ?
Ah, on en connaît quand même des limites. Hein. Par exemple, une part des dépenses des assurés n'est pas remboursée. Certains médicaments seulement à 30% ou non remboursé. Et chaque acte, boîte, transport fait l'objet d'une retenue. Certaines personnes, comme les étrangers en situation irrégulière, en fait ne sont pas dans le système et doivent passer par une aide médicale État, AME, qui est longue à obtenir. Surtout, une part de la gestion des risques pourrait être confiée aux assureurs privés, ce qui peut créer une médecine à deux vitesses, comme on dit, le privé assurant au mieux les plus fortunés, leur permettant l'accès aux meilleures structures et les autres devant se contenter de services moins performants ou moins rapides. D'autre part, du côté des recettes, elles sont compromises par le non-paiement de certaines cotisations patronales et bien entendu par le chômage lui-même.
Donc on le comprend bien, tout n'est pas idéal. Alors est-ce qu'il faut abandonner ou réformer le système ?
Ben, pour nous, qui sommes acteurs de santé en tant que soignants et en particulier hospitaliers, il est absolument fondamental de garder la sécurité sociale dans son organisation générale. Même si en tant que prescripteur de soins, nous devons garder une attitude responsable.
Mais vous êtes libre de choisir le traitement.
Voilà. Ce système assure notre liberté, celle de choisir pour chaque patient les explorations appropriées, les traitements efficaces, même s'ils sont coûteux, et ceci quel que soit son statut social. Les décisions, en tout cas dans les cas graves, sont prises de façon collégiale, associant le patient informé au choix thérapeutique. Et ceci se fait, c'est ça qui est important, en fonction de critères médicaux, et non dans un cadre restrictif fixé par une organisation à but lucratif.
Donc vous êtes pour ce système, si je comprends bien.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que notre sécurité sociale, qui était jugée obsolète, inefficace, coûteuse, et depuis peu, est-ce qu'un effet de la crise, montré en exemple, est le système français parfois classé au premier rang mondial. Outre la bataille courageuse de l'administration Obama contre les lobbies des assurances privées, on pourrait citer maintenant, tout récemment, certaines régions de Chine, où la prise en charge de la santé par la collectivité va désormais, sans doute, permettre de mieux soigner et de mobiliser les économies des habitants. Alors que jusqu'ici, le souci numéro un des Chinois, c'est de garder leur argent pour se soigner. Donc on peut dire que la sécurité sociale peut être aussi reconnue comme un instrument du progrès économique.
Alors Evelyne Thévenard, est-ce que notre sécu pourrait marcher aux États-Unis ?
Telle qu'elle est en France, certainement pas. Ben, si on prend l'exemple de Medicare, c'est à peu près l'équivalent de la Sécu. Hein? Et ce que voudraient les réformateurs, les plus à gauche, c'est Medicare for all, Medicare pour tous. Hein?
Donc la Sécu pour tous.
Donc la Sécu pour tous. Non, ça n'est pas réaliste. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système privé qui existe, qui est très puissant, très riche, et qui finance les campagnes électorales des parlementaires, y compris des parlementaires démocrates. Hein, bon, l'industrie pharmaceutique en particulier a dépensé énormément d'argent ces deux dernières années pour financer les campagnes des démocrates.
Donc on comprend bien que c'est pas très simple. On va y revenir. Après avoir entendu le point de vue des Républicains qui se sont donc mobilisés contre cette réforme, je vous propose maintenant de laisser la parole aux démocrates qui soutiennent ce projet. Edwina Walker a une soixantaine d'années, elle est comptable pour le comté de Los Angeles et elle nous explique la situation de sa fille qui est sans abri et n'arrive pas à se faire soigner. Au micro de Laurie Ortiz.
Elle n'a pas été voir un médecin depuis l'âge de 17 ans, quand elle vivait encore sous mon toit. Aujourd'hui, je ne peux pas la mettre sur mon assurance médicale, donc je ne peux rien faire pour elle. Les hôpitaux du comté l'ont refusée, elle a essayé de bénéficier de Medicare et Medicaid, les aides sociales qu'on a ici, mais elle n'y a pas droit. Et ça veut dire qu'elle ne reçoit pas les soins dont elle a besoin. Elle n'a pas eu de mammographie, elle n'a pas eu de frottis, elle n'a pas fait de détartrage, enfin, vous savez, ces choses dont elle a besoin. Elle ne peut pas se les payer. Elle vit avec $134 d'allocation sociale. Elle est seule et Dieu merci, elle n'a pas d'enfant, parce que je devrais m'occuper d'eux moi-même si j'avais des petits-enfants. Je trouve cette situation vraiment désolante pour elle et aussi pour les autres qui traînent comme elle dans Los Angeles, ne vont pas chez le médecin, ne prennent pas soin d'eux et pourraient même mourir parce que la santé, c'est trop cher pour eux. Quant aux dispensaires gratuits, ils ne font pas les choses jusqu'au bout. Elle a eu des grosses migraines et on lui a donné de l'aspirine. Ils n'ont rien diagnostiqué, rien soigné. Ils ont juste donné de l'aspirine, vous voyez. Alors ils font quoi? Elle est toujours dehors et on ne sait pas si ça se trouve. Elle a une tumeur au cerveau.
Vous pensez qu'elle peut avoir quelque chose de grave et qu'elle ne le sait pas?
Ouais, je crois. On n'a pas des migraines au point de vomir, vous voyez, d'être affaiblie comme ça. Je l'ai même vue pratiquement s'évanouir. Ici, il y a une grande population de sans-abri et ils ont besoin de surveillance médicale. Je pense qu'avec cette réforme, il y aura un programme ou une aide spécifique pour ces gens qui sont là, dehors. Et puis, c'est aussi quelque chose qui touchera beaucoup de monde. Quand on partira à la retraite, on aura besoin d'un système qui garantisse qu'on pourra aller consulter un médecin.
Evelyne Thévenard, les démocrates se sont organisés, ont aussi fait des meetings justement pour contrer cette position des républicains avec des histoires comme celles qu'on vient d'entendre justement sur les limites du système actuel.
Tout à fait. Les démocrates contre-attaquent. Ils essaient de rendre coup pour coup. Lors de meetings effectivement dans les États ou à Washington, également sur Internet.
Hein. Et à la télévision
Et à la télévision, des spots, tout à fait.
Des deux côtés, les spots.
Des deux côtés, voilà.
Des spots qui coûtent très très cher.
Oui. Alors les arguments pour la réforme. Bon ben le président, entre autres, martèle le même message depuis le mois de janvier, hein, que ce soit à Washington lors de discours officiels ou bien lors de ses interventions dans les États. Deux choses. Il a dit c'est un impératif moral et c'est un impératif budgétaire. Un impératif moral, on ne peut pas continuer à laisser sans couverture 46 millions de nos concitoyens, mais c'est aussi un impératif économique. C'est un fardeau terrible pour le pays. Ce système, la croissance incontrôlée des dépenses, est une menace pour l'équilibre des finances publiques. Et lors de ses dernières interventions, Obama a essayé de rendre son message encore plus percutant. Il a bien posé le terme du débat. Il a dit, on peut garder, qu'est-ce que vous voulez ? On peut garder le système existant qui rapporte d'énormes profits aux assurances, qui met en péril les finances du pays, qui ne vous offre aucune sécurité, puisque si vous tombez sérieusement malade, votre assureur peut très bien refuser de vous couvrir, ou bien on peut soutenir une réforme qui est bonne pour le pays, bonne pour vous, puisqu'elle apportera davantage de sécurité et mettra un terme aux abus des assureurs.
Justement, alors pour comprendre un peu plus ces abus des assureurs, Lorraine Ortiz a rencontré Chang Simling, qui a 46 ans, elle travaille dans le cinéma, et elle a eu un cancer du sein en 2006.
Les médecins sont obligés de négocier avec les compagnies d'assurance, du genre « Ok, ma patiente a un cancer, j'ai besoin de lui faire telle opération chirurgicale, est-ce que vous allez la couvrir ?» Moi, j'ai eu de la chance, mais on ne peut pas compter sur un système de santé basé sur la chance. J'ai une amie qui n'a pas eu cette chance. Elle a dû se battre avec l'assurance elle-même. Elle n'a pas eu la chance d'avoir un médecin qui se batte pour elle. Et donc, elle a dû prendre son téléphone. Elle a passé des heures à se battre avec sa compagnie d'assurance, à écrire des lettres. Et en même temps, il fallait qu'elle supporte sa tumeur. Elle devait faire tout ça à temps pour qu'on puisse l'opérer de sa tumeur du rein. C'est dingue, ça, non ? Elle a eu une expérience terrible. Moi, ça n'a pas été aussi terrible, mais j'ai quand même appris des choses. Même si j'étais contente des soins, des médecins, des infirmiers à chaque étape, parce que j'ai eu plusieurs médecins, le traitant, le cancérologue, le chirurgien, celui pour la reconstruction de la poitrine. Bref, à chaque étape, la bureaucratie était telle, le fait de gérer avec l'assurance, enfin vous savez, j'ai dû remplir des formulaires en 3 exemplaires. Et à chaque fois, il fallait attendre qu'il vérifie avec la compagnie d'assurance pour voir si elle donnerait son feu vert ou non à telle ou telle opération. C'était tellement compliqué, cette procédure. Je ne vois pas pourquoi dans ce pays qui a la plus grande économie du monde n'aurait pas les moyens. Et ce n'est pas seulement un système inefficace, c'est aussi un système immoral où les gens font des profits sur le dos des malades. Moi, j'aimerais qu'on ait un guichet de remboursement unique, l'État. Mais je reconnais que dans ce pays, pendant 30 ou 40 ans, il y a eu une grande propagande de droite sur combien l'État est quelque chose de mauvais. Depuis Reagan, le pays a été tellement tiré vers la droite qu'aujourd'hui, on ne sera sans doute pas en mesure de mettre en place ce guichet unique au niveau national. Mais enfin, on aura toujours quelque chose et ce sera mieux que rien. Le choix du public, c'est-à-dire pour les gens qui à présent ne sont pas assurés, eh bien, ils pourront au moins avoir une couverture maladie.
Evelyne Thévenard, c'est important de le rappeler, même les personnes qui sont assurées ne sont pas sûres d'être soignées aux États-Unis.
Ah oui, absolument. Il y a environ 25 millions de personnes qui sont ce qu'on appelle sous-assurées. Hein. C'est-à-dire que une femme enceinte va découvrir, en regardant de près son contrat d'assurance maladie, que les soins prénataux et puis l'accouchement ne seront pas remboursés. Il y en a pour des milliers de dollars.
Alors, où en est la réforme d'Obama aujourd'hui ?
Alors, où elle en est ? Il ne s'agit pour l'instant que de propositions qui ont été élaborées par 4 commissions du Congrès sur 5 en charge de la réforme au mois de juillet. Donc ces propositions vont être très certainement modifiées.
C'est important ce que vous dites parce qu'on a tendance à parler de la réforme d'Obama, mais non, c'est pas exactement ça. C'est un peu une erreur de dire ça.
Tout à fait. Ça n'est pas le président qui s'occupe de la législation aux États-Unis. Hein, le président, il la signe.
Mais il a laissé surtout le Congrès élaborer.
Il a laissé le Congrès travailler, hein, contrairement à ce qui s'était passé pour la réforme Clinton en 94. Donc déjà. Pour corriger peut-être une perception qu'on a depuis la France, il ne s'agit pas de créer un système public à la française ou à la canadienne ou à la britannique et d'éliminer les assureurs privés. Non, il s'agit d'une part d'élargir l'accès aux dispositifs publics, médicaux en particulier, et puis de faciliter l'accès à l'assurance privée. Alors, les différents projets de loi garantiraient à tous les Américains une couverture santé en élargissant donc l'accès à Medicaid. Actuellement, Medicaid couvre moins de 50% des personnes en dessous du seuil fédéral de pauvreté. Avec la réforme, si elle passait, tous les Américains pauvres, qu'ils aient des enfants ou pas, bénéficieraient de Medicaid. Un autre élément central serait l'obligation individuelle pour les Américains de s'assurer. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Beaucoup d'Américains jeunes en bonne santé font le choix de ne pas s'assurer. Donc les risques financiers pour les assureurs ne sont pas répartis sur l'ensemble de la population, ce qui explique en partie, mais en partie seulement, le montant élevé des primes. Autre point central de la réforme, les employeurs seraient obligés, avec des subventions de l'État pour les petites entreprises, seraient obligés d'assurer leurs salariés ou bien de contribuer à l'assurance publique. Autre élément très très important, les compagnies d'assurance seraient strictement réglementées, seraient obligées d'assurer tout le monde. Elles ne pourraient plus, par exemple, ce qui se passe actuellement, exclure les gens qui souffrent de ce qu'on appelle une condition préalable. Hein, si vous avez un cancer,
considère que vous êtes trop malade, on va vous assurer.
Bon, les assurances seraient également obligées de fournir un panier de prestations de base défini par l'État fédéral. Alors il y a un point particulièrement controversé qui tient à cœur aux démocrates les plus à gauche, mais qui a très peu de chances d'être adopté, ça consisterait à créer un plan public d'assurance, un dispositif public d'assurance sur le modèle de Medicare, qui ne remplacerait pas les assurances privées, mais qui serait mis en concurrence avec les assurances privées.
Et bien entendu, c'est pas sûr que ça passe, très clairement.
Il est sûr que ça ne passera pas. Les compagnies d'assurance ont fait un lobbying forcené auprès des... elles n'avaient pas convaincre les républicains, mais ont fait un lobbying forcené auprès des démocrates les plus conservateurs pour les convaincre que le plan public serait très mauvais, il éliminerait la concurrence, ce serait la concurrence déloyale, ça conduirait les assurances privées à la faillite, résultat, il n'y aurait plus de concurrence et donc plus de choix, plus de liberté.
Et alors l'aile gauche des démocrates trouve que ça ne va pas assez loin, que cette réforme ne va pas assez loin et que Obama est en train de reculer.
Voilà, de reculer, de lâcher du lest parce qu'il veut à tout prix faire passer sa réforme. Oui, il y a une fraction assez importante du Parti démocrate qui voudrait que les projets tels qu'ils ont été élaborés au mois de juillet par les commissions du Congrès, que ces projets passent tels quels. Hein, et considérer que si on lâchait du lest sur le plan public, sur la réglementation des compagnies d'assurance, sur l'obligation pour les employeurs d'assurer les salariés, ça constituerait une reculade, mais c'est ce qui risque fort de se produire. Hein, puisque y a quand même une chose qui est très différente par rapport aux autres tentative de réforme pendant
celle
les décennies précédentes,
entre autres.
Oui, c'est que là, les démocrates, malgré tout, se disent, il ne faut pas faire du tout ou rien. Bon, tant pis, même si on doit diluer cette réforme, même si elle doit être très édulcorée, tant pis. On veut quand même que quelque chose passe.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons donc de la réforme de l'assurance maladie aux États-Unis. Et nous avons maintenant au téléphone le docteur Jean-Honoré Miakala, qui est ancien secrétaire général à la santé de la République démocratique du Congo. Docteur Miakala, bonjour.
Bonjour, Claire.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Est-ce que vous vous intéressez à cette réforme aux États-Unis et pourquoi ?
Et ce qui se passe aux États-Unis nous intéresse parce que vous savez que les États-Unis ont une grande influence sur le monde. Et les objectifs de réforme d'Obama qui consistent à diminuer le coût de santé et assurer la couverture universelle représentent pratiquement les mêmes défis que nous avons, en particulier en République démocratique du Congo. Et nous avons des pressions idéologiques qui veulent que l'État se désengage de sa fonction de prestataire pour se confiner dans le rôle régalien de normalisation et de régulation. Or, nous avons une expérience malheureuse dans les années 80 avec le programme d'ajustement structurel. On a convaincu nos gouvernements d'abandonner les secteurs productifs, c'est-à-dire les secteurs sociaux. La santé, l'économie, la santé et l'éducation nationale sont passés par là. Aujourd'hui, nous déplorons le fait que le budget de l'État consacré à la santé, qui était de l'ordre de 25% dans les années 80, représente aujourd'hui moins de 5% à cause de ce genre de choses. Nous pensons que si la gestion de l'assurance maladie par le secteur public peut se passer correctement aux États-Unis, cela aura une très grande influence, en tout cas dans mon pays. Je pense que ce sera la même chose pour le reste du continent africain.
Ces ajustements structurels dont vous parliez, ces pressions venaient de la Banque mondiale et du FMI. Donc ça veut dire que vous aviez le sentiment que cette Banque mondiale et ce FMI étaient sous influence des États-Unis. Est-ce que ça veut clairement dire que si jamais Obama réussit sa réforme, vous pouvez espérer que le FMI et la Banque mondiale changent?
Nous pensons qu'effectivement, la grande influence sur ces institutions de Bretton Woods vient des États-Unis. Aujourd'hui, ces institutions poussent vers la privatisation à outrance. Et donc, si la réforme Obama passe avec une bonne influence du secteur public, nous pensons que ces institutions de Bretton Woods devraient absolument revoir leur copie.
Docteur Miakala, merci. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général à la santé de la République démocratique du Congo. Evelyne Thévenard, je voulais votre réaction. Effectivement, l'enjeu dépasse largement les États-Unis, finalement.
Tout à fait, en raison du leadership mondial des États-Unis, politique et économique. Mais vous savez, pendant ces 15 dernières années, les États-Unis et la Banque mondiale et le FMI ont essayé d'exporter le modèle américain de privatisation des retraites. Il y a pas mal de pays qui ont privatisé leurs retraites et ça a été catastrophique. Alors peut-être qu'ils en tireront les leçons et que si une réforme passe, même si elle est limitée, une réforme qui accroîtrait la part du public dans le domaine de la santé, on peut espérer que ça constituera un bon exemple pour les pays en voie de développement.
L'enjeu pour Barack Obama est énorme aussi au niveau politique aux États-Unis.
Absolument. L'enjeu politique pour Obama est énorme. Il s'est personnellement engagé dans cette réforme et c'est sa priorité absolue en matière de politique intérieure. Il est déterminé à réussir là où tous les autres présidents ont échoué.
Quel est votre sentiment? Question difficile. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir?
Bon, alors c'est très difficile à dire. Il est impossible de savoir quel projet va sortir des débats au Congrès. Le grand risque, ce serait que les débats s'enlisent.
Quand est-ce qu'on devrait avoir un peu un résultat, une réponse?
Très rapidement. Très rapidement. Alors déjà, Barack Obama voulait qu'une réforme sorte du Congrès, sorte des commissions du Congrès, et même en séance plénière du Congrès fin juillet.
Ça s'est raté.
Donc les Républicains ont gagné. Donc Obama s'est fixé la fin de l'année. Et en fait, c'est une course contre la montre, puisque dès la fin de l'année, la campagne en vue des élections de mi-mandat va s'engager. Et donc, ça va devenir très difficile. Dès mi-septembre, en fait, on devrait avoir une idée plus précise de ce qui pourrait passer. Oui, il est très possible qu'au moins une réforme limitée passe. Alors la forme qu'elle pourrait prendre, ça, nul ne le sait pour l'instant. Donc Obama pourrait abandonner les points les plus controversés de sa réforme, l'option publique, le plan public. Il pourrait aussi décider, lui et puis le Congrès, parce que c'est quand même le Congrès qui prend les décisions, il pourrait être décidé d'adopter une couverture universelle pour les enfants dans un premier temps. Faire en 2009 ce qui a été fait en 1965 pour les personnes âgées, avec la création de Medicare. On pourrait créer un programme public d'assurance pour les enfants. Mais Bon, c'est simplement un petit morceau de réforme. Pas sa déception va être très grande hein, dans le camp réformateur.
On a eu le sentiment pendant un moment que Barack Obama ne s'impliquait pas tellement dans cette réforme. Est-ce que c'est toujours vrai?
Moi, personnellement, je ne le pense pas. Bon, on lui demande beaucoup de choses. Hein. On lui avait demandé de tirer les raisons de l'échec de la réforme Clinton. Clinton qui avait parachuté une réforme déjà toute ficelée au Congrès. Là, il a fixé les grandes orientations de la réforme au mois de janvier-février. Il a laissé le Congrès travailler. On l'a accusé de manquer de leadership. Donc, au mois d'août, pendant la trêve parlementaire, il s'est impliqué personnellement aux côtés des parlementaires démocrates. Il a mouillé sa chemise. Il est allé dans 4 ou 5 États hein, tenir des meetings pour vendre la réforme. Et puis, la semaine prochaine, il va à nouveau s'adresser au Congrès pour relancer le débat.
Merci beaucoup, Evelyne Thévenard. Et on va suivre de très près si cette réforme va passer ou pas aux États-Unis. Merci à Laurine Ortiz, notre correspondante à Los Angeles, pour ses reportages. Lundi, nous parlerons de l'obéissance. Et oui, pourquoi est-ce important? Quelle est la différence avec la soumission? Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.sante@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22. Bonne fin de semaine et à lundi.